Comme c'est le dernier soir de la retraite, je vais vous parler du chemin. Le chemin à huit voies, la roue, une des roues, pas celle du samsara, mais celle de la sagesse. Et selon les moments, nous employons une voie ou une autre. Là, nous avons beaucoup employé la voie de l'exercice et la voie de la compréhension. Et quand nous retournerons dans notre quotidien, nous allons beaucoup employer la voie de l'éthique, de manière à ne pas recréer du karma, à repurifier. Le chemin, au fond, il est maintenant. C'est ce déroulement de l'histoire de nos vies. Et quand on regarde en arrière, il y a un chemin. Mais en avant, on ne sait pas. On peut imaginer. L'expérience, c'est juste de l'imaginaire. C'est Saint Augustin qui dit, marche sur ton chemin, car il n'existe que par tes pas. Donc nous nous engageons. Nous nous engageons dans un chemin qui est ordinaire et aussi extraordinaire. De temps en temps, nous venons plonger dans le Dharma avec un grand D. Et le reste du temps, nous allons dans le Dharma avec un petit dé. Tout est Dharma. Tout est là pour nous permettre de grandir. Et lorsque le chemin spirituel, le Bouddha Dharma, devient vraiment notre chemin, que nous sentons que nous pouvons développer une persévérance. À un moment donné, il n'y a plus de doute. C'est un chemin sur lequel je dois marcher. C'est une évidence. Le Bouddha a parlé de le never returner, celui qui ne revient plus en arrière, même si il aimerait arrêter, il ne peut pas. Le chemin est là, il le suit parce que ce qu'il a vu fait qu'il ne peut pas ne pas y aller, même si c'est dur. D'abord c'est le Satipanya. D'abord c'est celui qui est obligé de marcher sur le chemin. Et puis après c'est celui qui revient une fois. Après c'est celui qui ne revient jamais. Et puis après c'est celui qui maintenant y est. Hein, ce qu'on appelle l'Arahat. Et je trouve très beau chez les Tibétains, il y a cette notion du Bodhisattva. La personne qui a touché l'éveil, la libération, ben elle choisit de revenir dans ce monde de dukkha juste pour pouvoir aider les autres à aussi marcher sur le chemin. Le premier aspect du chemin, samadhiti, c'est la compréhension juste ou sage. Il y a toujours ce mot sama qui veut dire en même temps généreux, ouvert, bienveillant, alerte, mais aussi qui sait lâcher prise. Le but, c'est le lâcher prise. Comprendre. Et quand on dit comprendre, on croit qu'on doit faire des bons petits casiers dans la tête, hein, pour que tout soit clair au niveau mental. Mais ça n'est pas ça. C'est une compréhension beaucoup plus holistique qui fait qu'on ne se lasse jamais. Le chemin, je l'ai enseigné je ne sais pas combien de fois. Je ne me lasse pas. Parce que lorsqu'on marche sur ce chemin, le chemin change toujours. Et quand on parle du chemin, le lien qu'on fait à l'expérience est toujours nouveau. Comprendre dukkha, on en a beaucoup parlé. Comprendre que dukkha est notre maître, que la libération n'est pas ailleurs autrement, qu'il est maintenant avec ce qui est. Et quand ce qui est est dukkha, c'est notre maître. Je ne cherche plus à fuir ou à changer parce que cette compréhension est là. Compréhension de l'impermanence qui va avec. Et cette compréhension du démantèlement du moi. Qui suis-je? Comment aller jusqu'à cette vacuité qui est un lâcher-prise du moi, mais qui est en fait plénitude? C'est grand, c'est délicat. On ne peut pas aller là avec des gros sabots, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de soins, beaucoup d'engagement. Un effort pour que cette énergie de pleine conscience devienne efficace. Donc toute cette compréhension, elle est là pour nous pousser à cultiver l'exercice. Et peu à peu, cet effort qui est très pénible devient plus simple, ça devient un plaisir, mais ça n'est pas un chemin linéaire. Quelquefois on croit que parce qu'on a quelques bonnes expériences en début de retraite, à la fin ce sera mieux, puis voilà qu'à la fin c'est pire. Il n'y a aucune certitude, il y a juste de plus en plus d'ouverture gratuite à ce qui est maintenant. Peu à peu, le chemin se réalise à l'intérieur. Et nous ne pouvons pas tirer sur la fleur pour la faire pousser. Ça n'est pas une grandeur du monde, c'est une grandeur du non-monde. Jolie une petite parole qui représente un peu ça. C'est le jour d'audience du grand sultan Al-Zafadi et tous les courtisans sont réunis dans la salle du trône en attendant sa venue. Soudain, un mendiant se fraye un passage dans la foule et monte hardiment sur le trône du sultan. Le vizir, scandalisé d'un tel culot, s'approche et lui dit « Comment oses-tu t'asseoir sur le trône de notre seigneur, le plus grand des sultans ? Misérable, c'est une insolence suprême. Sais-tu qui est le sultan ?» Le mendiant répond tranquillement « Oui, je sais, je suis plus grand que lui. » « Comment s'étrangle le vizir ? Ta misère te fait-elle perdre la tête ? Il n'y a que l'empereur au-dessus de lui. » Le mendiant le regarde et dit « Oui, je sais, je suis au-dessus de l'empereur. » Les gardes s'approchent de l'inconscient, attendant un geste du vizir pour s'emparer de lui. Mais il leur fait signe de patienter et dit « Quoi ? Mais au-dessus de l'empereur, il n'y a que Mahomet, notre prophète bienheureux. » « Oui, je suis au-dessus de Mahomet, dit le mendiant. » En entendant ces mots, le vizir devient tout pâle. Il dit « Malheureux, tu blasphèmes, au-dessus de Mahomet, notre prophète bienheureux, il n'y a que Allah, son nom soit béni. »« Oui, et je suis au-dessus de lui. » Les gardes s'approchent du mendiant pour le tirer hors du trône. Rouge de colère, anéanti par cette outrecuidance, le vizir dit encore « Mais au-dessus de Allah, il n'y a rien. » « Oui, je sais, » répond l'ascète tranquillement, « et justement, je ne suis rien. » Le deuxième aspect du chemin, c'est la pensée sage ou l'intention sage. Et l'intention, c'est quelque chose d'important parce que dans le monde, nous ne sommes jamais sûrs, même si nous essayons de faire tout bien, de ne pas créer de souffrance. Je peux dire quelque chose et l'autre le prend mal, malgré que mon intention n'ait pas été ça. Et de conscientiser notre intention, surtout si nous avons un doute, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Quelle est mon intention ? Et le Bouddha dit que si l'intention est consciente et sage, même si je crée de la souffrance, il n'y a pas de karma. La souffrance se crée, ou le karma se crée à travers l'inconscience. Donc cette pensée, elle est importante à explorer. D'abord, on a tous ces commentaires, toujours, qui viennent. Après, les commentaires commencent à se taire. Nous sentons comment les choses se posent. Et ça demande beaucoup d'assiduité, de continuité, d'engagement. Dans une retraite comme celle-là, plusieurs d'entre vous ont pu sentir comment l'image, c'est un verre d'eau boueuse. Il y a de la boue dans l'eau, tout est un peu confus, un peu pas stable, pas tranquille. Et peu à peu, la boue se dépose au fond. Et on peut sentir ce corps qui est juste là, qui est juste simple, ça fait tellement du bien que ça s'arrête un peu tout ça. Et qu'est-ce qui nous permet de faire cet effort, c'est la pensée investigation, la pensée qui se met au service de ce qui en nous est en quête d'autre chose que des satisfactions du monde. Peu à peu, la pensée sauvage, on la laisse de côté. Et l'instant arrive à coller avec notre intention. J'ai pas une intention, puis quelque chose d'autre tout le temps là. J'ai mon intention, puis j'ai pas ce que je veux. J'ai mon intention, j'ai pas ce que je veux. Tout d'un coup, ça se colle. Et ça fait du bien pendant un petit moment. Et puis après, devinez quoi ? Ça change. Le Troisième aspect fait partie de l'exercice, l'effort sage, qu'on a pas mal développé. Peut-être que vous avez compris que cet effort sage n'est pas un effort ambitieux qui veut atteindre un but. C'est un engagement, qui, un élan, qui, un travail sacré qui se met au service de l'instant. Le travail n'est pas du tout par rapport à l'objet. Nous n'avons aucun souhait de changer l'objet. Ce que nous voulons changer, c'est le lien que nous créons aux choses. Et de pouvoir garder un lien de confiance lorsque tout va mal, de ne pas partir dans le doute, dans l'aversion, dans le désir, dans l'imaginaire, ou si nous le faisons, de le faire consciemment. Ça c'est tout bon, je retrouve mon chemin. Oula, je suis en plein imaginaire. Le fil rouge est de nouveau là. Alors que lorsque nous sommes juste en train de trouver que ça va pas, puis chercher comment faire pour que ça aille, c'est souffrance. C'est mal. Parce que nous allons à contre-courant. Donc l'effort volontaire, nous commençons à le reconnaître. Nous commençons à le lâcher pour venir dans la question. Plutôt que je veux que ce soit comme ça, comment c'est maintenant? Cet effort d'être là à chaque maintenant, il est développé par le fait de donner du temps. À ce qui est le plus précieux. Et ne pas s'engager trop dans l'ordinaire. C'est pour ça que la Sangha, elle est importante, parce que ensemble nous pouvons faire un gros effort. Et une retraite, c'est un temps où nous emmagasinons énormément d'informations, d'expériences, de... Et puis après, quand nous sortons, d'une certaine manière, c'est le début de la retraite. Là, nous allons tout digérer. Nous n'allons pas partir en oubliant d'être neuf à chaque instant. Et l'effort sage, c'est l'effort ordinaire de développer des valeurs qui soient en accord avec mon intuition, mon intelligence intuitive, savoir renoncer à certaines choses. Moi, ça me fait des fois très souci de voir combien les jeunes sont fixés sur leur parce que les cellules du corps, elles se colorent, on cultive quelque chose. Et il n'y a pas de miracle. Si nous cultivons trop ce qui nous met hors de nous-mêmes, nous allons avoir de la peine à contacter cette sagesse intérieure. Et nous pouvons nous souvenir de le faire pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Quelquefois, ça aide dans cette espèce de combat entre la force de l'ignorance et cet élan intérieur. Le quatrième aspect, c'est le samadhi, la concentration. Alors on peut, selon nos natures, être plus enclin à travailler samatha, qui est les jhanas, la concentration pure. Et c'est bon parce que ça calme les cellules. Ça permet au corps d'être posé, au mental d'être tranquille. Et nous gardons un objet de conscience. Il y a peu de sens du moi, mais rien ne se purifie. Mais simplement, il n'y a pas de création de karma. C'est déjà bien, c'est super. Mais quand les conditions changent, nous en sommes à peu près au même niveau. C'est pour ça que lorsque vous quittez une retraite, ça ne sert à rien de se crocher à un état de clarté ou à une manière d'être posé. Si c'est là, c'est bien, je vais le goûter. Mais on crée beaucoup de souffrance à essayer de reproduire, en croyant que c'est juste. Et comme on l'a vu, on peut développer la conscience, le samadhi aussi, peut-être pas samatha, qui est quelque chose de tout à fait précis, mais développer le samadhi à travers la lecture d'un livre, à travers l'écoute. En ce moment, vous êtes en train de développer votre samadhi. Chic, hein? Pas trop pénible. Avec les paroles de metta, de refuge, tout ce qu'on a appris là. Vous pouvez faire le « qui suis-je » de temps en temps au quotidien. C'est très chouette. Qui ouvre la portière de l'auto, qui s'assied, qui met les gaz, qui est agacé au feu rouge. Sati, c'est le souvenir. Donc, quand vous vous souvenez et que vous êtes là un moment, en pleine conscience, vous développez cette clarté mentale, ce fondement. Vous construisez la cire de la bougie. Et puis, Sati, le 1, 2, 3, 4, 5e aspect. La conscience qu'on appelle pleine. C'est pas juste une conscience qui est réveillée, c'est une conscience qui est éveillée. Elle est ouverte à tout. Elle est alerte, elle est transparente, claire, calme, généreuse. Qu'est-ce qu'elle est encore?
Humble.
Ouais. Quoi d'autre?
Bienveillante. Bienveillante.
Bienveillante, ouais.
Intéressée.
Intéressée, ouais.
Étendue.
Vaste, ouais. Quelque chose est simple, curieux. Et il y a cette impression d'avoir notre fil rouge. Quand je suis là. Quand il y a la pleine conscience et que cette ouverture est là, cette conscience intérieure et extérieure, c'est bon d'employer la respiration pour laisser l'infini venir dans le fini, on pourrait dire. Je m'ouvre à l'infini et j'offre tout ça à ce qui est fini, là, à ce qui est tout petit. Créer ce lien. Et alors nous sortons de la cage. C'est bon de sentir comment, quand ce souvenir vient, il y a eu quelque chose, un événement, un icha, tout d'un coup il y a quelque chose. Et puis le mental se saisit de l'expérience. Et tout d'un coup, le dharma vient me chercher. C'est lui qui vient me dire, hé, souviens-toi. Je suis là. Le corps. Le refus. Et les trois derniers aspects, ce sont ces aspects du quotidien qui sont particulièrement importants lorsque nous sortons de retraite. La parole juste ou sage. Soigner la parole sage. Et pourquoi je la soigne? C'est parce que je sais que je crée du karma. Et je sais que si je crée du karma bénéfique, tout se détend, les cellules sont contentes, l'univers est content. Et quand je crée du karma négatif, le mal-être est là, le malaise des cellules, et l'univers, il est pas content. Il y a ce monsieur japonais qui avait fait ses expériences sur l'eau, où il avait pris deux bouteilles et puis à une il lui avait dit que des méchantes choses et à l'autre que des choses, des bonnes choses, des choses valorisantes, des choses d'amour. Puis après il avait coupé, il avait gelé l'eau et puis il avait coupé des tranches qu'il avait regardées au microscope électronique et c'est assez dingue, hein? Mais les tranches de la bouteille gelée où il avait dit que des paroles négatives, c'était dans tous les sens. Et les tranches de la bouteille d'eau qui avait reçu des paroles positives, c'était ces formes qui viennent quand on met des acides sur des buvards. Hein? Ça fait des formes parfaitement harmonieuses. Donc nous développons la parole bénéfique. Et le Bouddha a parlé de quatre aspects. D'abord, la sincérité. Être sincère, droit, ne pas tordre la réalité, ne pas prétendre, accepter de voir nos limites plutôt que de valorisé par le mensonge. Et ça n'est pas seulement par rapport aux autres, mais c'est aussi par rapport à nous-mêmes. Être sincère, être authentique avec soi-même. On peut nommer l'authenticité quand nous faisons œuvre de connaissance, quand quelque chose émerge et que je dis oui. Plutôt que d'essayer de ne pas voir parce que c'est pas glorieux. Et si nous manquons, eh bien nous avons le pardon. Nous n'allons pas toujours faire bien, nous pouvons pardonner à nous-mêmes, aux autres. Quand nous parlons de l'éthique, souvent, ce qui vient, c'est « Oh là là, je fais tellement souvent faux. » Et puis ça fait mal. Mais développer l'éthique, ça n'est pas créer un moi qui doit ou qui est fautif. C'est plutôt sentir l'élan pour ne pas créer du mauvais karma. Et si nous en avons créé, tout va bien. Simplement, je reconnais, je sens combien c'est dukkha. La parole sage, c'est aussi celle qui rassemble, qui évite de monter ceux-ci contre ceux-là, ou bien de trouver que nous, on est tellement bien, puis les autres tellement pas bien. C'est savoir dire à l'autre ce qui lui fait du bien. Savoir reconnaître mudita, la joie, ce qui va bien, les qualités. Être quelqu'un qui est source de concorde, plutôt que de clan. Et c'est vrai qu'on va des fois un peu à contre-courant parce que nous vivons dans un monde où tout, la politique, c'est toujours lié à ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Comment être au-delà? L'autre aspect, c'est la parole qui est douce, qui n'est pas acide. Moi, je donne toujours cet exemple. J'étais enseignante spécialisée et puis des fois, je reprenais un enfant qui faisait vraiment pas bien. Et puis, il me disait, je lui demandais, Arbias, tu veux faire bien ou bien tu veux pas faire bien? Il me répondait, mais oui, bien sûr que je veux faire bien. Puis je lui disais, mais j'écoute quoi? J'écoute ce que tu me dis ou bien comment tu me le dis? Et nous sommes souvent comme ça, de pas pouvoir vraiment amener en conscience quelque chose qui est derrière. Et alors la parole, elle continue à être plus ou moins ok dans son contenu, mais l'énergie est tout à fait autre. Et ça, c'est bon à voir comment nous ne sommes plus unifiés à ce moment-là. Nous sommes dans une sorte de mensonge. Et ça met l'autre très mal à l'aise. Et puis, le dernier aspect, c'est la maîtrise. Parler avec retenue. Comprendre la valeur du silence, même dans un groupe. Ne pas avoir besoin de faire l'intéressant ou de participer forcément, alors que on sent bien que c'est peut-être pas, ça ne vous convient pas tout à fait. Oser rester tranquillement en silence. Et aussi, des fois, quand on s'ennuie un peu chez soi ou qu'on est un peu mal, on va parler. On prend le téléphone ou bien on va voir la voisine ou bien on prend un bouquin ou bien on meuble. Et cette maîtrise du vide, mais du bon vide, attendre un moment avant d'aller vite remplir. C'est un aspect important. Avec la parole, on crée beaucoup de karma, donc c'est bien d'être prudent. On crée du bon karma, mais on crée aussi du moins bon karma. Et avec la pensée, c'est un karma qui reste intérieur, mais avec la parole, voilà, il sort. Donc prendre soin de nos pensées, déjà. Un autre aspect, c'est l'acte sage. Le respect de la vie. Le respect du bien des autres, ne pas prendre ce qui n'est pas donné. Mais c'est aussi vivre un peu simplement. Ne pas avoir trop. Et aujourd'hui, c'est aller à contre-courant de vouloir vivre simplement. Au moins ne pas succomber aux sirènes de l'avoir beaucoup et ne pas se sentir mal parce qu'on a peu. Mais valoriser le fait que nous pouvons vivre dans un monde un peu moins confortable, grandement confortable. Quand on arrive en avion aux États-Unis, ou bien, puis qu'on voit toutes ces piscines, c'est terrible. Tout le monde a sa piscine. Wow. L'acte juste, c'est aussi prendre soin de sa santé physique en mangeant sainement, en étant dans... Ça m'a beaucoup frappé avec toute cette histoire du Covid. Combien on parlait toujours de masques, de vaccination. Mais jamais on disait aux gens, mais allez marcher chaque jour, mangez bien. Jamais, à la télé, jamais. Et nous sommes pris hein, dans cette manière de ne pas prendre notre responsabilité. L'acte juste, c'est aussi soigner ce qui est lié à la sexualité, parce que l'acte sexuel, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement puissant en termes d'unification, mais aussi en termes de peine, de douleur. L'autre jour, j'écoutais la radio, puis il y a quelqu'un qui disait que je crois tout le monde, presque tout le monde, maintenant il va dans ces clubs de... où on se partage. Pourquoi? Mais ouais, les couples, ils vont dans un club où tout le monde se partage. Je me disais, non, mais attends, mais dans quelle société on vit, quoi? Dingue. Ben ouais, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est mieux que l'Afghanistan où les femmes ne peuvent pas aller en avion sans être accompagnées d'une personne de leur famille. C'est incroyable ce que l'humanité peut créer, dans un sens ou dans l'autre. C'est Krishnamurti qui dit « Ce n'est pas un signe de santé d'être bien adapté à une société profondément malade. » C'est important de pas s'adapter, de maintenir une éthique qui soit en accord avec nos valeurs profondes. Tant pis si on n'a pas notre villa, si on n'a pas notre super bagnole. Maintenant, on ne peut plus réparer les voitures. Hein. Soi-même, rien. Moi, j'avais ma deux chevaux quand j'étais jeune. Quand j'étais petite, peut-être aussi. quand j'étais jeune, puis j'avais mes bougies dans le coffre. C'était super, elles ne marchaient plus, on changeait les bougies, on traficotait avec la boîte à outils. Maintenant, même les garagistes, ils ne peuvent plus réparer. Ils doivent tout envoyer, je ne sais pas où. Pff, on a construit un monde de dingue, quoi. Faut le voir. Alors, confiance, il y a une cohérence qui nous échappe. Je sais pas si je vous l'ai lu, mais je crois pas. L'oiseau en cage, je vous l'ai lu?
Non.
C'est Ajahn Chah qui dit: nous sommes comme des oiseaux en cage. Peu importe que la cage soit merveilleuse, l'oiseau n'est pas content. Il a sans cesse l'espoir de la liberté et souffre d'être enfermé. Les riches et les privilégiés n'ont pas plus de chance. Ils sont seulement enfermés dans des cages dorées. Depuis le moment où tu entends le Dharma, jusqu'au moment où tu es Dharma, tu vas encore souffrir et tu ne seras pas libre de l'expérience. Jusqu'à ce que tu sois Dharma, ton bonheur est dépendant de facteurs extérieurs. Tu t'appuies sur eux. Tu t'appuies sur les plaisirs, ta réputation, la richesse ou les objets matériels. Tu peux avoir toutes sortes de connaissances, mais elle est teintée par les intérêts du monde et tu ne peux pas être délivré de la souffrance. Tu es encore comme un oiseau en cage. Donc, nous faisons notre part dans ce monde. Le dernier aspect, c'est le mode de vie sage. Comment orienter ma vie pour que y ait quelque chose de cohérent, que ça ait du sens. Et pour moi, la première chose qui donne sens à ma vie, c'est mon travail intérieur. Parce que c'est le seul endroit où nous pouvons être libérés et libérer le monde. Et si la conscience générale de l'humanité changeait, eh bien demain, tout changerait. Tout. Parce qu'on a la capacité, si l'intention est vraiment là. Mais l'intention, c'est encore avidja. Quand il y a eu le Covid, j'étais en retraite. Donc je suis entrée dans un monde, puis je suis sortie dans un autre monde, sans rien entendre entre deux. Ben, je peux vous dire que c'était incroyable. Le plus incroyable pour moi, c'était de me dire « Non, mais c'est pas vrai. On arrive à faire ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on a peur. C'est quand même triste. On ferait ça parce qu'on veut aller vers le bien. Oh, on est capable. Il suffit de changer la conscience de l'humanité. Mais comme on ne peut pas changer l'autre, on ne peut que se changer soi-même. Alors ça donne sens à la vie. Faire au moins une longue retraite par année. Avoir peut-être un groupe de pratiques. Avoir une pratique régulière. Faire des clins d'œil au Dharma. Et puis, quelquefois, nous avons des choix à faire. Alors, comment faire ces choix? C'est pas évident. Souvent, ce qui motive notre choix, c'est d'avoir la meilleure solution. Mais il n'y a pas vraiment de meilleure solution. Il y a des conditions. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ces conditions qui sont là? Et nous passons souvent beaucoup de temps à réfléchir parce que nous mettons trop d'importance à l'extérieur, à la situation. Parce que ce que je dois faire, je le ferai et j'en ferai le meilleur usage. Et là où je suis, c'est là où je dois être. Et souvent, il y a ce doute qui vient. Le moi est en quête d'une manière un peu trop personnelle. Et il y a souffrance. Ajahn Chah qui disait, si vous prenez les choses très personnellement, vous souffrirez beaucoup. Si vous prenez les choses un peu personnellement, vous souffrirez un peu. Si vous ne prenez plus les choses personnellement, il n'y a plus de souffrance. Tout vient de cette identification. C'est bien de faire sa part, mais de la faire, comme disait Isabelle, je crois, humblement. Parce que si je fais ma part en étant pleine de moi, ça ne joue pas. Je me rappelle, j'étais une fois à une conférence de Pierre Rabhi au CHUV à Lausanne. Et puis à la fin de sa conférence, c'était Marinette qui l'avait organisée, ouais, tu y étais aussi. À la fin de la conférence, il y avait des gens du CEL de Lausanne qui avaient pris la parole pour dire comme ils étaient bien. Qui faisait ça, puis que les autres ne faisaient pas. Et puis je me suis dit, oui, le pauvre, qu'est-ce qu'il va dire là? Et j'avais trouvé merveilleux parce qu'il avait répondu, oui, ce que nous faisons est très important, mais comment nous le faisons est encore plus important. Wow, ça m'avait fait du bien. C'était beau, hein? Tu te souviens de ça? C'était beau. Un grand bonhomme, Pierre Rabhi. Donc, nous nous donnons des plages de silence. Nous faisons notre part au mieux. Et nous savons que la vie est faite des 10 000 joies et des 10 000 paix. Et c'est pas parce que nous méditons que ça va changer. Elle est faite de ça. Mais nous allons changer notre manière de nous situer. Et tout notre engagement éthique. Ajahn Sumedho, j'aime beaucoup quand Ajahn Sumedho dit « Les seuls droits que nous avons sont des droits éthiques. » Nous avons le droit de ne pas tuer. Mais, ok, le droit de ne pas tuer. Mais qu'est-ce que je fais si on en veut à la vie de mes proches? Comment je prends ce droit? C'est pire de répondre à la haine par la haine. Comment est-ce que je comprends ça? Le droit de ne pas voler. C'est un droit que je me donne. Et ça implique la générosité. Lorsqu'on dit les paroles du matin, qu'ils ne prennent plus jamais naissance dans ce monde, peut le comprendre de beaucoup de manières. Mais lorsque nous prenons naissance dans ce monde, en oubliant qui nous sommes vraiment, en oubliant que nous sommes Dharma, nous sommes à la merci de manquer de cette éthique tellement bienfaisante. Parce que le moi est confus. Donc je peux prendre naissance dans ce monde, mais ne pas oublier l'autre. Je vous lis une parole de Rudolf Steiner. Quoi que puisse m'apporter l'heure à venir ou le prochain matin, si cela m'est inconnu, ni la peur ni l'angoisse n'y pourront rien changer. Je l'attends avec le calme intérieur le plus complet, dans mon âme, avec le silence le plus parfait dans mon cœur, à l'image d'une mer étale. Par la peur et l'angoisse, notre fonctionnement est entravé. Nous rejetons par les vagues de l'angoisse et de la peur ce qui, venant de l'avenir, veut pénétrer dans notre âme. Aie confiance dans la divine sagesse des éléments. Rends toujours présent en toi cette pensée, ce sentiment, cette impulsion de vie de ton âme. Ce qui doit advenir advient et doit avoir d'une façon ou d'une autre des effets positifs. C'était Adam, se manifestant dans l'attente, dans les sentiments, dans les idées, et celui de la confiance. C'était Adam doit se métamorphoser en une prière. Je veux vivre à partir de la confiance seule, sans aucune sécurité quant à mon existence. C'est cela que nous devons apprendre à notre époque, de vivre qu'à partir de la confiance, sans aucune sécurité quant à l'avenir de l'existence, dans la confiance en l'aide toujours présente du monde spirituel. En vérité, il ne peut en être autrement. C'est une parole qui m'a fait beaucoup réfléchir. De vivre dans cette confiance que les choses sont comme elles doivent être. Et que mon refuge est ailleurs que dans ce monde. Juste rester dans ce refuge. Qui est maintenant pour chacun de nous. et sentir combien ce refuge est bienfaisant, qui est un refuge en même temps dans l'instant, dans le partage de l'instant avec les autres et dans l'appartenance à la terre et à l'infini. Et cette qualité-là, quel que soit le monde autour de nous, elle est accessible toujours. Dans n'importe quelle situation, même avec 300 portables autour. Même avec le conflit, la guerre, et c'est bon de sentir que ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Même pas la mort, puisque nous retournons simplement à cette totalité. Prenons notre droit éthique sans peur. Parce que cette confiance inébranlable, elle est là.